Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, c'est le 11e chapitre, les tristes tropiques. Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de France Musique, de la Radio-Télévision Suisse, de la Radio-Télévision Belge et de Radio-Canada. Le titre de ce nouveau chapitre de Carrefour des Amériques fait référence évidemment au séjour de Claude Lévi-Strauss au Brésil et principalement à São Paulo, alors que les liens du pays avec l'Europe se resserrent. En 1934, suite à la décision du gouvernement de Getúlio Vargas, le Brésil se dote enfin d'université. Après le soulèvement de 1932, si brutalement réprimé par l'armée fédérale, c'est l'occasion pour la ville et l'État de São Paulo de prendre une belle revanche sur la capitale Rio de Janeiro. Dès le 25 janvier, le gouverneur fonde par décret l'université de la ville, en regroupant les facultés qui existaient déjà et en créant d'autres, comme celle de philosophie, de sciences et de lettres, et bientôt de sociologie et d'ethnologie. São Paulo devient alors l'une des plus grandes villes universitaires, sinon la première, en Amérique latine. Et l'idée géniale des autorités, c'est de faire venir de grands professeurs étrangers. Et en ce sens, elle dame le pion à la capitale. Belle victoire d'une ville qui sait relever la tête et faire preuve de courage et d'audace, et qui retrouve aussi le sens de la fête, en particulier au mois de juin, quand elle célèbre la Saint-Jean, comme partout dans le pays, en allumant de grands feux des fogueiras et en lâchant dans le ciel des milliers de ballons illuminés. São Paulo fête par la même occasion la fondation en 1651 de sa célèbre avenue São João. En 1934, le grand succès musical, c'est la marche de carnaval, c'est l'heure des feux de la Saint-Jean, « Chegou a hora da fogueira », popularisé à travers le pays par les chanteurs Carmen Miranda et Mario Reis dans un bel arrangement de Pixinguinha.
Cortava papel fino pra fazer balão, e o balão ia subindo para o azul da imensidão. Chegou a hora da fogueira, é noite de São João. O céu fica todo iluminado, fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão. Pensando na cabocla a noite inteira, também fica uma fogueira dentro do meu coração.
Hoje em dia o meu destino não vive em paz, o balão de papel fino já não sobe mais. O balão da ilusão levou pedra e foi ao chão.
Il se trouve que depuis plusieurs années, le médecin et psychologue français Georges Dumas fait de longs séjours en Amérique latine pour y diffuser la culture française, créer des lycées, des instituts de recherche et organiser des échanges de professeurs et d'étudiants. On lui doit par exemple la fondation en 1925 du lycée français à São Paulo. Il mène en 1934 une intense campagne pour obtenir qu'à l'université de São Paulo, les chaires les plus prestigieuses, celles des sciences humaines et sociales, soient dévolues à des professeurs français. Il part donc à Rome, où son ami brésilien Teodoro Ramos est chargé de recruter en Europe les professeurs de la jeune université et il réussit à imposer 6 Français sur les 15 Européens engagés. En 1934, Camargo Guarnieri, qui avait participé à l'insurrection de 1932, compose sa toccata, un condensé d'énergie toujours au bord de la révolte. Nelson Freire dans la toccata de Camargo Guarnieri. En 1935, après le retour en Europe des professeurs de la première mission universitaire, São Paulo demande à Dumas de remplacer les maîtres qui ne reviennent pas et de développer les départements déjà existants. Il fait alors appel à de jeunes professeurs de lycée en début de carrière et c'est une idée formidable. Parmi eux, Jean Mauguet, Fernand Braudel et Claude Lévi-Strauss, qui voulait déjà se consacrer en France à l'ethnographie et à l'ethnologie. Il fait le voyage avec Dina, son épouse, qui sera une magnifique assistante dans tous ses travaux. C'est en février 1935 que Claude Lévi-Strauss, qui a alors 27 ans, découvre émerveillé les côtes du Brésil et la baie de Guanabara. Pendant 2 jours et 2 nuits, une cordillère immense se découvre. À plusieurs centaines de mètres au-dessus des vagues, ces montagnes dressent leurs parois de pierres polies. Il me semble que le paysage de Rio n'est pas à l'échelle de ses propres dimensions. Si on veut embrasser un spectacle, il faut prendre la baie à revers, la contempler des hauteurs. Établie d'abord sur la zone plate et marécageuse qui borde la baie, la ville de Rio s'est introduite entre les mornes qui l'enserrent de toutes parts à la façon des doigts dans un gant trop étroit. Mais mon premier choc en arrivant au Brésil, ça a été la nature, telle qu'on pouvait encore la contempler sur les flancs de la Serra do Mar, la montagne de la mer qu'on gravissait depuis le port de Santos par la route qui menait à São Paulo.
Thank you.
Akaishinia di Buas Festas. En quelque sorte, la pochette surprise pour les fêtes. C'est un ballet de Villa-Lobos, créé en concert à Rio en 1932. Le chef argentin Juan José Castro dirigeait ici l'orchestre de la RAI à Rome. Avant mon départ, écrit Lévi-Strauss dans ses tristes tropiques, le Brésil s'esquissait dans mon imagination comme des gerbes de palmiers contournés, dissimulant des architectures bizarres, le tout baigné dans une odeur de cassolette. Détail olfactif introduit subrepticement, semble-t-il, par l'homophonie inconsciemment perçue de Brésil et de grésiller, mais qui, plus que toute expérience acquise, explique que je pense encore au Brésil comme à un parfum brûlé. Claude Lévi-Strauss arrive à Rio en plein carnaval. Rio est mordu par sa baie jusqu'au cœur. En 1935, la place occupée par chacun dans la hiérarchie sociale se mesurait à l'altimètre, d'autant plus basse que le domicile était haut. Les miséreux vivaient perchés sur les mornes, dans les favelas, où une population de noirs, vêtus de loques bien lessivées, inventait sur la guitare ces mélodies alertes qui, au temps du carnaval, descendraient des hauteurs et envahiraient la ville avec eux. Le grand succès de 1934, c'est Adeus Batucada, créé par Carmen Miranda. La batucada, c'est un ensemble de percussions qui accompagne souvent une danse faite surtout d'adresse corporelle, un peu comme la capoeira. Adeus Batucada, c'est le petit matin après la nuit de carnaval. Au revoir, ma batucada, je pleure en te quittant.
Adeus, oh, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora, chorando, com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Adeus, ah, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora, chorando, com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Em criança com samba eu vivia sonhando. Acordava, estava tristonha chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba é mocidade, sambando se goza neste mundo. E do meu grande amor, sempre eu me despedi, sambando. Mas da batucada, agora desperto chorando. E guardo no lenço esta lágrima sentida. Adeus, batucada, adeus, batucada, querida. Adeus, oh, oh, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora, chorando e com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada.
En débarquant en plein centre à Rio, c'est toujours Claude Lévi-Strauss qui écrit. Je foule l'avenida Rio Branco, où s'élevaient jadis les villages des Indiens Tupinambas. Mais j'ai dans ma poche le livre de Jean de Léry, le bréviaire de l'ethnologue. Il y a 378 ans, presque jour pour jour, il arrivait ici avec 10 autres Genevois protestants, envoyés par Calvin, à la requête de Villegaignon, son ancien condisciple, qui venait de se convertir un an à peine après son établissement dans la baie de Guanabara. C'est à son retour en Suisse que Jean de Léry écrit le récit de son voyage. C'est lui qui a recueilli le thème d'un chant indien, Tupinamba, que Villa-Lobos a utilisé plusieurs fois dans ses œuvres. Canide Iune Sabat, le chant de l'oiseau jaune, qu'il venait d'harmoniser dans les années 30, et qu'il faisait chanter dans les écoles et les chorales du pays. En entendant cette mélodie, on pense à la description de Claude Lévi-Strauss alors qu'il est dans un village indien en 1938. Les femmes chantaient sur trois notes, une brève mélopée infiniment répétée. Ces paysans loqueteux, au fond de leur marécage, offraient un spectacle bien misérable. Mais leur déchéance même ne rendait que plus saisissante la ténacité avec laquelle ils avaient préservé certains traits du passé. Isaac Karabchevski, à la tête du madrigal qu'il avait fondé dans les années 60, dans cette mélodie Tupinamba, harmonisée par Villa-Lobos. En 1935, lors de sa première incursion en terre indienne, Claude Lévi-Strauss est accompagné du responsable local du service de protection des indigènes. Tous deux se rendent au nord de l'état du Paraná, qui jouxte l'état de São Paulo. Lévi-Strauss découvre la jungle et rencontre la communauté Kaingang avec laquelle le rapport est trop superficiel. Il se prépare à des expéditions d'une autre envergure. Voici comment il parle de son séjour au Brésil au micro de Bernard Pivot.
Dès qu'il y avait un peu de vacances, quelques jours, quelques semaines, je filais dans l'intérieur. D'abord pas extrêmement loin, mais dans le sud du Brésil, enfin un jour de voyage, on peut déjà trouver des petits groupements indiens assez abîmés, qui vivent comme des paysans brésiliens, mais enfin qui sont tout de même des indiens. Et j'ai décidé que mes premières grandes vacances, au lieu de rentrer en France comme faisaient mes camarades, bien je filerai chez les indiens dans l'intérieur. C'est ce que j'ai fait la première, la deuxième année, et j'ai pu obtenir des crédit pour faire une mission d'une année alors dans l'intérieur qui a duré tout à l'heure jusqu'à la veille de la guerre.
les facéties du sassi pereré, le petit lutin noir au nom indien Guarani, bien connu des enfants brésiliens, que Villa-Lobos a inclus dans sa pochette surprise pour l'époque des fêtes à Caixinha de Boas Festas, dirigée ici par Juan José Castro. C'est donc lors des vacances scolaires en fin d'année qu'a lieu le premier véritable contact de Claude Lévi-Strauss avec les communautés indigènes, quand il prend la route pour la frontière paraguayenne et qu'il découvre les Indiens Caduevo. Il est émerveillé par leurs bois sculptés, leurs peaux tannées peintes de motifs subtils. Ces acquisitions se trouvent aujourd'hui dans les collections du Musée de l'Homme à Paris. Puis il rejoint la frontière bolivienne à Corumba. De là, il pénètre dans les forêts du Mato Grosso jusqu'à la ville de Cuiabá. C'est de là que part la longue route qui mène au village Quejara où vivent des Indiens Bororo. Il a alors enfin le temps de se mêler aux gens, de vivre avec eux. On le voit en train de noter en portugais une mélodie chantée après le travail, ou bien en train de décrire avec un vrai style de musicologue les chants et les danses des Indiens. L'expédition a duré quelques semaines. Il rentre à São Paulo et il écrit son premier article scientifique, Contribution à l'étude de l'organisation de la Société des Indiens Bororos. En 1936, il doit passer plusieurs semaines à Paris. Mais là-bas, il ne rêve qu'au Brésil et à son prochain retour. Thank you. une valse de l'île de Marajó à l'embouchure de l'Amazone, composée par Valdemar Henrique et interprétée par Arnaudo Rebel.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
De retour à São Paulo, Claude Lévi-Strauss est heureux de retrouver l'écrivain et musicologue Mario Di Andrade, avec qui il a lié une profonde amitié. Lévi-Strauss est un passionné de musique, digne héritier d'un grand-père chef d'orchestre qui a écrit avec Offenbach le quadrille d'Orphée aux Enfers. Nul doute que Mario lui a parlé de Villa-Lobos, qui a été l'un des premiers à s'intéresser vraiment aux musiques indiennes de son pays et à la mythologie indigène. Comme dans son ballet Uirapuru, créé en concert au Brésil puis représenté au Théâtre Colón de Buenos Aires en 1935, ou quand il a composé la musique du film d'Humberto Mauro, La découverte du Brésil, dans laquelle il cite le chant indien Walalossé, une mélodie qu'il a entendue dans un enregistrement réalisé par l'anthropologue Roque Pinto en 1912. Villa-Lobos a utilisé ce chant avec sa réitération traditionnelle savamment architecturée dans une scène où les indigènes en pleine forêt vierge s'adonnent au rituel habituel avant la chasse, alors que les caravelles des conquistadors s'approchent des rivages et laissent présager le pire. Mouvement de la découverte du Brésil, Heitor Villa-Lobos dirigeait ici l'Orchestre national de la radio-télévision française. Durant l'année 1934, c'est-à-dire un an avant le voyage de Claude Lévi-Strauss, la culture indigène a été très présente au Brésil et la France y a participé, curieusement, brillamment représentée en la personne du célèbre danseur franco-ukrainien Serge Liffard en août et en septembre. Il est venu avec sa compagnie de ballet russe et ce sera son premier contact avec la culture amérindienne. Il participe en effet à la saison exceptionnelle du théâtre municipal de Rio de Janeiro, l'Opéra de Rio en quelque sorte, dont on inaugure la restauration magnifique, et ses danseurs interviennent même dans certains opéras. Car c'est une saison lyrique, comme il y en aura peu. 20 titres à l'affiche, dont une Valkyrie de Wagner de grand luxe, dirigée par Fritz Busch, avec de grands chanteurs comme Ella de Nemeti, Walter Grossmann et Alexander Kipnis. Fritz Busch qui dirige aussi Wagner et Beethoven lors d'un concert entre les représentations. De son côté, Serge Liffard remporte un grand succès comme soliste à la tête de sa compagnie, tant à Rio qu'à São Paulo, en particulier dans une soirée consacrée à des ballets inspirés par des mythes et récits amérindiens. C'est ainsi qu'il danse sur la musique des Choros numéro 10 de Villa-Lobos, le rôle de l'indien guerrier de la légende de Jurupari, le dieu des songes qui s'achève dans le sang. Un ballet que Lifar reprend à la salle Pleyel à Paris à son retour en France. Cette même année, Villa-Lobos, impressionné par l'argument du ballet, écrit à son tour un chœur chanté en langue indienne Nyangatu, qui s'inspire de la même légende.
Thank you.
Deux œuvres de Villa-Lobos, d'abord le premier mouvement des Chorus numéro 10 par l'orchestre Simón Bolívar de Caracas, dirigé par Eduardo Mata. Puis le Jour où Paris est l'enfant, chanté par le chœur de la radio de Stuttgart, dirigé par Marcus Creed. À la fin de l'année 1936, Claude Lévi-Strauss est à Paris pour organiser une exposition de ses recherches. Il retourne à São Paulo au printemps 1937 et il fait une excursion dans l'état de Goiás, voisin du Mato Grosso, auprès des Indiens Carajá. À la fin de l'année, il retourne à Paris afin d'organiser sa nouvelle expédition en 1938. Le voyage doit durer environ un an. Avec lui partent Dina, son épouse, qui est elle-même ethnographe, le biologiste et médecin Juan Velar, l'archéologue brésilien Luis de Castro Faria du Musée national de Rio et 11 équipiers chargés de s'occuper des chevaux, des mulets et des bœufs qui portent les membres de l'expédition ainsi que des centaines de kilos de ravitaillement et de matériel. L'objectif de Lévi-Strauss est de découvrir des peuples inconnus. Quel bonheur alors pour lui de retrouver le Brésil auquel il s'est profondément attaché et où il va devenir un ethnologue poète. Deux musiques pour l'accueillir. D'abord un chant de l'île du Marajo, une île que parcourent les troupeaux et les cavaliers, et un aria pour cordes d'un compositeur né dans l'état voisin du Ceará.
Em cima daquela serra, passa boi, passa boiada, passa boi, passa boiada. Passa boiada. Também passam as mulatinhas dos cabelos cacheados, dos cabelos cacheados, dos cabelos cacheados. Marajó já teve fama de gado e cavalaria, de gado e cavalaria, de gado e cavalaria. Hoje já vive explorado pelos piratas da vigia, pelos piratas da vigia, pelos piratas da vigia.
Thank you.
un chant de l'île de Marajo, enregistré lors de l'expédition menée par le compositeur Camargo Guarnieri en 1938, suivi d'un aria pour cordes de l'Iduinu Pitumbeira, né plus à l'est dans l'état du Ceará en 1962. Samir Vadi Rami dirigeait son orchestre du Limiar. Au Brésil, la route choisie par Lévi-Strauss pour son expédition suit en réalité le tracé de la fameuse ligne télégraphique créée par le maréchal Rondon. Elle traverse le Mato Grosso de Cuiabá, où Lévi-Strauss rencontre des garimpeiros, des chercheurs d'or, jusqu'au Rio Madeira. Tous avancent péniblement dans une savane semi-désertique, un peu inquiets aussi, puisque les Indiens Nambiquara, que Lévi-Strauss veut rencontrer, ont massacré plusieurs personnes peu auparavant. Par chance, les Nambiquara qu'ils croisent ne sont en rien agressifs. Lévi-Strauss tombe même sous le charme de ces hommes et de ces femmes qui vivent dans le plus grand dénuement. Ils lui font penser à ce que pouvait être l'idéal du bon sauvage au XVIIIe siècle. Les Nambiquara semblent, dit-il, n'exister que pour l'amour, l'amitié et le rire. Papai Curumiaçu, une berceuse indienne harmonisée par Villa-Lobos. Nous écoutions le chanteur Julio Moretz et l'ensemble brésilien Calliope. Durant cette marche insensée dans une nature si inhospitalière, la maladie s'abat sur plusieurs membres de l'équipe et la femme de Lévi-Strauss doit être rapatriée. Quant à lui, il quitte le Mato Grosso et parvient au Rio Machado. Ici commence la forêt amazonienne, dont l'exubérance le fascine. Il vogue en pirogue au fil de la rivière et découvre les Indiens Mundi. Malheureusement, personne dans l'équipe ne parvient à dialoguer avec ce peuple si peu connu. Le groupe poursuit sa route à travers la forêt et rencontre des Tupi-Kawahib. Ces derniers font partie des descendants des Indiens des côtes brésiliennes chassés par les colons au cours des siècles précédents. Lévi-Strauss constate avec tristesse que les Indiens du Brésil sont souvent condamnés à voir leur nombre diminuer ou à se fondre dans le reste de la population. Le voyage se termine en janvier 1939. Lévi-Strauss est harassé, mais il vient de vivre une formidable aventure, doublée d'une mission scientifique importante. Il est de retour à Paris au mois de mars. Il commence à rédiger triste tropique. C'est l'œuvre d'un grand ethnologue et aussi un chef-d'œuvre de la littérature française. Au Brésil, dans les années 1990, le compositeur Gilberto Mendes, élève de Stockhausen et Pierre Boulez en Europe, compose un hommage plein de tendresse et d'humour à Lévi-Strauss et il l'intitule « Alegres Tropicus », les joyeux tropiques, avec en sous-titre « Danse dans les forêts vierges de l'Atlantique ». Alondra de la Parra dirigeait ici le chœur et l'orchestre São Paulo dans ces tropiques joyeux de Gilberto Mendes. Claude Lévi-Strauss arrive en France alors que la guerre éclate. Il s'exile en 1941 à New York où il enseigne à la New School for Social Research. Aux États-Unis, la musique brésilienne est enfin à l'honneur quand sort le film Flying Down to Rio, intitulé en France « Carioca », avec Fred Astaire, Ginger Rogers et Dolores del Rio. Avec cette scène inoubliable des danseuses debout sur les ailes des avions qui survolent la baie de Rio. Et la musique de Vance Neumann, c'est magnifique. Et comme la mode aux États-Unis est encore à la musique caraïbe, pas étonnant que sa samba a plutôt des allures de rumba cubaine.
Oh! polka. It's not a foxtrot or a polka. It has a little bit of new rhythm, a blue rhythm that's hard. It has a meter that is tricky, a bit of wicked, wacky, wicky. But when you're dancing with a new love, there'll be true love in her eyes. Yeah. And we're saying goodbye. Two heads together, they say you're better than one. Two heads together, that's how this dance has begun. Two arms around you, and lips as high, I am yours and you are mine. One the carioca carries you away.
C'est avec ce Brésil made in Hollywood que nous nous quittons aujourd'hui pour se retrouver bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet à la technique Claude Niort, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.